Radio Okapi.
12h à Kinshasa, le journal Pascal Massirika.
À la une ce midi, en Ituri, l'hôpital d'Itendei est vidé des malades et de son personnel médical ce week-end. La peur au ventre, ils ont fui des miliciens qui écument ce jour-ci le secteur de Banyalikilo. Au Maniema, les territoires de Kailo et de Pangui sont en proie à la peste de petits ruminants. Le gouvernement provincial a pris un train de mesures pour éviter la propagation de cette maladie. Notre invité, c'est le commandant du service national. Le général-major Kasongo Kabuit affirme qu'il n'y a pas eu de violation des droits de l'homme lors du transfert des délinquants d'Ikuluna vers Kanyamakasese, comme le prétendent à Kinshasa certains acteurs politiques. Il annonce pour demain mardi la 7e vague. Madame, messieurs, bonjour. En Ituri, l'hôpital général d'Itendei, dans le territoire de Djougou, s'est vidé des malades et du personnel médical ce week-end. C'est à cause de l'activisme des miliciens qui occupent plusieurs entités du secteur de Banyalikilo. Certains malades sont allés au centre de négoce des Kilo et d'autres à Mongwalou. Selon le président de la communauté Niali, plus de 50 personnes sont prises en otage. Les autorités sanitaires redoutent que cette situation ne compromettent dangereusement la prise en charge des malades qui étaient sous surveillance médicale. Le point de la situation avec vous, Jean-Claude Lokidile.
La situation sécuritaire dégénérée dans cette entité depuis l'attaque le vendredi dernier du village de Licéi par des éléments de la milice Codeco. Ces derniers ont pillé plusieurs biens de la population avant de prendre en otage une cinquantaine de personnes dont on ne connaît pas le sort, déclare le président de la communauté Niali. Et du coup, les habitants des localités environnantes, dont Itendei, où se trouve cet hôpital, ont pris le large pour suivre Vital Tungulu. Dans la foulée, cette formation médicale d'une capacité d'accueil de 65 lits s'est vidée de ses malades et de son personnel médical. Une situation qui déplore le docteur Justin Lodia, médecin des zones de santé de Kilo, qui ajoute que parmi ses patients, il y a des tuberculeux qui étaient sous une surveillance médicale. Ces personnes ont pris la direction de Kilo et des Mongwalo où il y a une forte présence des militaires des FADC. D'autres sont retranchés dans la forêt pour se mettre à l'abri. Ces autorités plaident pour la sécurisation de cet hôpital qui dessert plus de 60 000 habitants. Sinon, s'inquiète son médecin directeur, ce bijou pour la région risque d'être saccagé par ces miliciens, à l'instar de plusieurs autres structures médicales dans la zone. Bounia, Jean-Claude Lekidile, Radio Capi.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, une vingtaine de maisons incendiées et une personne kidnappée, bilan d'une nouvelle incursion de l'armée dans la nuit de samedi à hier dimanche dans les villages de Mutanda, en chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Les sources locales affirment que cet incident suscite beaucoup d'inquiétudes dans la zone qui était déjà relativement stable. À Goma, des précisions avec vous, Bernard Danyangi.
C'est vers 23h locales dans la nuit de samedi au dimanche dernier que les habitants qui étaient déjà endormis ont juste constaté les maisons qui prennent feu dans le village. Selon certains notables du milieu, dans la débandade, très peu de biens ont pu être sauvés dans les 27 maisons qui auraient été incendiées. Un habitant du milieu manque jusqu'ici à l'appel. Depuis cet événement, ses sources pensent que l'homme aurait été kidnappé. Pour un député provincial élu dans la zone, un flou demeure jusqu'à présent au sujet de l'identité des présumés auteurs de ces incendies. Alors que les sources administratives locales parlent de personnes non identifiées, les habitants du milieu, eux, pointent du doigt les combattants Nyatura d'un certain Bigabo qui campe près du village, comme auteur de cette attaque. Les 27 familles sinistrées campent pour l'instant dans les écoles et les églises locales. Le député Obsabini, qui affirme qu'un calme se rétablissait déjà dans ce groupement, déplore la présence des groupes armés Nyatura et Maïmaï qui implantent déjà leur nouvelle position depuis quelques semaines près des villages de Boulouma et Mirangi notamment. Goma, Bernard Dengangi, Radio Okapi.
Au sud Kivu voisin, des organisations de la société civile dénoncent des dérapages dans l'application des gestes barrières. Cette structure citoyenne déplore le manque de professionnalisme de certains policiers de la ville de Bukavu. Tout récemment, un policier a été tué par son compagnon d'armes dans la commune de Bagira. Un jeune garçon de 20 ans a été grièvement blessé dans la commune voisine de Kadutu. Hier dimanche après-midi, un policier a échappé à la justice populaire après avoir tiré sur un chauffeur qui n'avait pas de cache-nez. Des précisions avec le président de la nouvelle dynamique de la société civile, Jean-Chrysostome Kijana, est au micro de Rachel Kiesembangou.
Nous sommes très écœurés, nous sommes préoccupés par cette violence, cette barbarie à outrance qui caractérise les éléments de la police nationale congolaise. Nous ne parvenons pas à comprendre comment, pour des questions minimes de régulation de certaines situations d'ordre public ou de mise en application de certaines mesures des autorités dans le cadre de la lutte contre la pandémie à COVID-19, mais nous ne parvenons pas à comprendre pourquoi la police doit se manifester par cette violence. Ces nuits, par cette violence extrême, nous nous sommes en train de nous demander à quoi bon avoir une police qui puisse considérer la population comme ses adversaires. La police doit en principe collaborer avec la population, sécuriser la population. Nous condamnons cela avec la toute dernière énergie et nous sommes en train de lancer un appel solennel à l'endroit des autorités. Notre police mérite des réformes très profondes.
Revenons ici à Kinshasa où le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a rendu visite hier dimanche à la famille de Joël Malushindani, l'étudiant congolais décédé le 2 août dernier au poste de la police de Bangalore en Inde. Christophe Lutundula Pala est venu au nom du chef de l'État consoler la famille éprouvée. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement d'accompagner la famille pour connaître le résultat de l'autopsie et obtenir le rapatriement de la dépouille mortelle du défunt. Reportage de Jocelyn Poy.
Il était 10h, heure de Kinshasa, quand le véhicule du vice-premier ministre Christophe Lutundula a stationné devant le portail de l'avenue Munganga 24 bis au quartier Mimosa, les domiciles familiaux du défunt Joël Malushindani. Le père de l'illustre disparu n'a pas pu retenir ses larmes quand Christophe Lutundula l'a pris dans ses bras. L'émotion était tellement grande que toute la famille a fondu en larmes. C'était pour la première fois depuis le début du deuil qu'il soit visité par le membre du gouvernement. Christophe Lutundula.
Nous sommes tous choqués par ce qui est arrivé à ce jeune homme, moins de 30 ans, qui est parti préparer l'avenir, prendre une formation complémentaire pour servir la République et la nation. Ça ne va pas continuer comme ça.
Odon Malou, le père du défunt, a remercié le chef de l'État, le Premier ministre ainsi que tout le gouvernement de la République pour cette visite qui a beaucoup réconforté la famille et a demandé à la population de se calmer.
Je n'ai fait que remercier le chef de l'État, remercier le Premier ministre et tout le gouvernement. Je demande à la population de se calmer, comme le ministre l'a dit. Tout se passe normalement, ce sont des choses qui arrivent.
Notez que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a dépêché son représentant personnel en la personne de son directeur de cabinet, le professeur Gaspard Ngondankoy, qui accompagnait le vice-premier ministre Christophe Lutundula.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ce midi. Au Maniema, la peste des pétures imminents a été déclarée dans les territoires de Kailo et de Pangui après les examens moléculaires au laboratoire vétérinaire central de Kinshasa. Le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage affirme à Radio Okapi que le gouvernement provincial a pris un train de mesures pour éviter la propagation de cette maladie. Apolline Sikudjoua le dit à Florence Kizalunga.
La peste des petits ruminants est déclarée dans certains territoires de la province du Maniema. À cet effet, les mesures prises pour contrer la dissémination et la propagation de la maladie jusqu'à nouvel ordre sont les suivantes. Interdiction des entrées et sorties pour tout motif de caprins et ovins dans les zones infectées, groupement Kiamba en territoire de Kailo, en aval du fleuve et ses environs, la routier Kindu, Kasongo, du PK39 au PK130 et ses environs, et l'axe Kayuyu, Kampene à 14 km de Kayuyu et ses environs, entourant les zones d'infection dans un rayon de 10 km. Interdiction de la circulation pour vente de la viande provenant d'animaux morts de la maladie dans et en dehors des zones infectées et ou suspectées, zones situées autour des zones infectées. Interdiction de la vente d'animaux malades de dites zones.
Et puis dans le Kwilu, après la pollution de la rivière Kasaï, la vie est devenue intenable pour les riverains des territoires de Didiofa et de Bagata. Il y a ce jour-ci carence de poissons et d'autres vivres. Le député provincial Bonaventure Kipalamoto tire la sonnette d'alarme et sur les risques de la malnutrition dans cette province. Il appelle par conséquent le gouvernement central et ses principaux partenaires humanitaires à mettre fin à la pollution de l'eau de la rivière Kasaï. Il est interrogé par Irene Renboma.
pitié pour la population de la province du Kwilu en général et en particulier les territoires du Diofa et Bakata. La rivière Kasai est polluée, la population n'arrive même pas à faire la pêche et à entrer en contact avec l'eau s'est lavée. La situation devient compliquée et difficile. Des hippopotames ont crevé au niveau d'un pango dans la réserve des hippopotames de Mangai, dans les territoires du Diofa. Si la situation continue comme ça, la population va souffrir de la malnutrition parce qu'au marché, on ne trouve absolument rien. Et la situation risque d'être généralisée au sud de la province du Kwilu. Nous lançons un appel au gouvernement de notre pays et aux organismes internationaux humanitaires de venir en secours de cette population. Mettre une chambre froide et surtout résoudre les problèmes de l'eau.
Et au Kasaï oriental, depuis bientôt un mois, l'eau potable coule au robinet de certains quartiers dont le réseau de distribution de la régie des eaux n'a pas été saboté. Ce qui était impossible devient possible grâce à la présence en Mujimaï d'une délégation de la présidence de la République qui a mis autour d'une même table les acteurs impliqués de loin ou de près dans la desserte en eau potable. Cependant, quelques fuites constatées sous le réseau de distribution de la régie des eaux risquent d'entamer la voie urbaine. La direction de la régie des eaux lie ses faits à la vétusté de la tuyauterie. En Mbujimaï, une correspondance d'Esther Ndalafina.
L'eau coule au robinet le matin, le soir et même la nuit au quartier de la Poste, Boubanji, Kansele, Lusengi, dans la commune de la Mouya, au quartier Nkourousse, Masanka, dans la commune de Djoulou, ainsi que dans d'autres quartiers des communes de Dibindi, Kanchebi, Pemba, où les réseaux de distribution d'eau de la régie des eaux n'a pas été saboté. Les bidons jaunes des revendeurs d'eau à vélo deviennent de plus en plus rares. Les ménagères saluent ce geste. Thérèse Mouéchi, qui puisait l'eau au robinet du quartier Boubanji, exprime sa satisfaction.
Ces derniers temps, nous avons beaucoup d'eau. On ne souffre plus encore l'électricité. Maintenant, ça va. C'est du matin au soir jusqu'à l'aube même, à vrai dire.
Cependant, sur les avenues Lumumba, Kalonji, par exemple, quelques filles et femmes ménagères recueillent l'eau qui s'écoule des fuites. Symphorien Loukoji, trouvé derrière la poste, craint que les fuites d'eau qui arrosent les avenues à longueur de journée ne créent des têtes de ravin.
Je vois, il y a des flaques d'eau, c'est-à-dire qu'il y en a en abondance. Je ne sais pas si les robinets sont mal entretenus.
La régie des eaux reconnaît que les fuites d'eau constituent un manque à gagner pour l'entreprise. Toutefois, le directeur provincial lie ces fuites au vieillissement du réseau. Claude Mboudilelo affirme que les travaux se poursuivent pour réparer ces défaillances susceptibles d'entamer la voie urbaine. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Économie à présent. La Chambre de commerce congolaise, Investissement Congo d'abord, en sigle IVCD, se réclame comme l'interlocuteur valable auprès du gouvernement central pour répondre à l'idée du président de la République de mettre en place un fonds spécial pour soutenir l'entrepreneuriat de jeunes. Dans une déclaration faite ce lundi à Kinshasa, le président de cette structure affirme que l'IVCD est, selon lui, la seule structure capable de permettre la réappropriation de l'économie congolaise. Il ajoute que pour atteindre cet objectif, le fonds de promotion de l'industrie doit être transformé en banque d'investissement. Claude Malouma s'est confié à Alain Rungmouchige.
Nous demandons être l'interlocuteur valable et qui représente l'homme et femme d'affaires formels et informels de la majorité silencieuse, qui sont le membre aujourd'hui des IVCD. Mais le gouvernement, le premier ministre, le ministre des Finances, le ministre du Budget, le ministre de l'Économie, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, le ministre des Commerces Extérieurs, de nous contacter au plus vite pour qu'en fait nous puissions mettre ensemble avec l'IVCD et le gouvernement, nous puissions travailler main dans la main si vraiment leur besoin est réel, celui de booster l'économie du Congo, que l'économie soit entre les bonnes mains des Congolais, d'approcher au plus vite l'IVCD pour que nous organisions le cadre dans lequel nous allons présenter directement la population. Pour qu'en fait l'argent ne transite pas entre les mains des mafieux, des conglomérats, des aventuriers comme la fois passée, qui ne représentent que leur personne. Nous nous proposons que le FPI puisse devenir une banque d'investissement, cette banque à taux minimum comme partout dans le monde pour les Congolais, qu'en fait les délais puissent être poussés de 7 mois, 8 mois qu'on voit actuellement à 5 ans. Quelqu'un peut emprunter $1000 pour rembourser $10 par mois.
Actualité internationale.
En Zambie, le chef de l'opposition Hakainde Hichilema, 59 ans, a remporté l'élection présidentielle avec plus de 2 millions de voix selon la commission électorale. Le Parti uni pour le développement national parle de la fin d'une longue marche vers le changement. Pas facile donc pour ses membres de faire l'économie de leur joie. 1300 personnes tuées, 5700 blessés et d'importants dégâts matériels, c'est le bilan du séisme qui a secoué ce week-end le sud-ouest d'Haïti. Les recherches se poursuivent pour retrouver des disparus. Le principal hôpital de la ville est saturé par l'afflux des blessés qui se pressent pour recevoir les soins essentiels. L'Afghanistan s'est réveillé ce lundi matin aux mains des talibans au lendemain de la prise de Kaboul. Le président de la République Ashkar Ghani, qui a quitté le pays, a reconnu la victoire des rebelles qui ont investi tout d'un coup son palais. Dans la panique, beaucoup d'habitants tentent de fuir par le dernier point de sortie, non encore sous le contrôle des insurgés.
L'invité.
Notre invité, c'est le commandant du service national. Le général-major Kasongo Kabuit affirme qu'il n'y a pas eu de violation des droits de l'homme lors du transfert des jeunes dits délinquants d'Ikuluna vers Kanyamakasese, comme le prétendent certains acteurs politiques. Il annonce pour demain mardi la 7e vague, une action gouvernementale menée par la police. Il s'entretient avec Jire Lungembo.
Général Kasongo Kabuit, bonjour.
Bonjour JR.
La 6e vague du transfèrement des délinquants, connus sous les noms des Kuluna, au centre Kanyamakasese, continue à défrayer la chronique. Les voix s'élèvent et crient à la violation des droits de l'homme. Quelle est votre réaction?
JR, je suis surpris parce que je sais que les opérations de transfèrement des Kuluna vers le service national et principalement vers Kanyamakasese n'ont pas commencé cette année. Nous avons lancé ces opérations sous l'instruction du commandant suprême, le président de la République, depuis l'an dernier. Je me pose la question pourquoi ça n'a pas défrayé la chronique dans le mauvais sens l'année passée, et maintenant avec la 6e vague. Je comprends qu'il y a certaines personnes qui estiment que ça ne devrait pas se faire de cette manière ou qu'on devrait carrément arrêter avec les opérations de transfert des Kuluna. Pour quelles raisons? Je suis encore en train de chercher de comprendre et je n'y arrive pas.
Le ministre des Droits Humains déplore le fait que on laisse ces jeunes délinquants torse nu, ligotés, comme s'ils étaient des prisonniers.
Non, moi je crois qu'il faudrait qu'ils replacent cela dans le contexte. Lorsque la police nationale va à la recherche de ces gens. Parfois, la police ne va même pas à la recherche de ces gens. Ce sont ces bandits qui sont arrêtés en flagrance. D'autres, lorsqu'on va les chercher, vous savez que c'est des gens, ce ne sont pas des garçons de cœur. Ce sont des gens qui sont violents, potentiellement dangereux, qui s'attaquent aux paisibles citoyens, qui s'attaquent même à la police nationale. Et lorsqu'on va les chercher, il faudrait qu'on prenne des dispositions pour qu'ils ne se retournent pas contre vous. Vous avez vu, dans la ville, ils se sont attaqués à la police, ils ont tué des policiers, ils ont tué des militaires. Donc, ils n'ont peur de personne. On le débarrasse de tout ce qui peut être servi pour se faire du mal. Ils sont habillés décemment. On n'en parle pas. Ils vont aller à Kanyamakasese. Pourquoi on veut toujours relever cet aspect négatif?
Est-ce que vous aviez, vous général, le sentiment d'être soutenu et accompagné par le gouvernement congolais? Si ce n'est pas un secret, à quel niveau se situe l'appui du gouvernement dans ces opérations?
J'ai... Sans le gouvernement, on n'aurait pas fait ce qu'on a fait à ce jour, ou avec le moyen d'un privé.
Donc c'est une action gouvernementale.
C'est une action gouvernementale. Moi, je suis un officier général. Je ne reçois pas les instructions, je ne prends pas des initiatives moi-même. Je reçois les ordres, je reçois les instructions que je dois exécuter.
Vous aviez annoncé la 7e vague d'évacuation pour bientôt. Est-ce que vous le confirmez?
Oui, nous confirmons que nous allons la faire. Mardi, ils vont être présentés devant l'autorité de la province. Et le mercredi, un autre avion va les amener, va les acheminer à Kanyamakasese. Qu'on nous reproche que parce qu'on le présente torse nu. Mais on ne dit pas qu'on nous félicite parce que le travail qui est en train d'être fait à Kanyamakasese, c'est bon. Vous voyez un peu?
Quel est le bilan de 5 premières vagues?
Gérard, je te l'avais dit, nous avons été agréablement surpris. Nous pensions que pour que ces jeunes gens soient transformés, il nous fallait 2 ans. Mais nous sommes en train de voir que cela ne peut nous prendre que peut-être 1 année et 3 mois. Les 2 premières vagues qui constituent le premier bataillon, qui sont partis de Kinshasa l'année dernière. Nous allons clôturer la formation paramilitaire et encadrement civique d'ici 2 semaines, 3 semaines. et passer à la professionnalisation. Donc, c'est pour vous dire que les choses se passent très bien. Donc, nous avons résolu un problème de sécurité dans la ville de Kinshasa. Nous avons résolu un problème de chômage. Nous avons aussi résolu un problème de production d'insuffisance alimentaire. Donc, à la fois, nous avons réglé plusieurs problèmes. Et qu'il y ait des gens aujourd'hui qui sont contre ces opérations. Mon Dieu, je me demande. Ceux qui sont morts. Et voilà qui est encore de mécontents aujourd'hui. Finalement, on veut quoi? Une chose est son contraire à la fois. Avant que quelqu'un se lève pour défendre les droits de ces Kuluna, il aurait fallu qu'il s'élevât avant pour défendre les droits des communs, des mortels, des citoyens, des paisibles, des citoyens qui sont agressés innocemment, qui sont tués innocemment. On ne le défend pas. On veut défendre seulement que les droits des Kuluna. Mais finalement, c'est quoi ça? C'est injuste ça.
Général Kasongo Kabuit, merci de nous avoir accordé cette interview.
Je vous remercie, JR.
C'était l'invité de Radio Okapi, le commandant du service national, le général major Kasongo Kabuit, interrogé par Jir Lungembo. À Kinshasa, il est 12h20. C'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Élisée Tikota qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale d'Alain Rungumushige. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net et sur les différentes plateformes digitales de Radio Okapi dans quelques instants. La page des sports.